Je te prie que tu l'aides à approfondir ce lien avec toi. Aide-le à entendre ta voix, jour après jour. Comme il a essayé de le faire en préparant cette prédication, aide-le à entendre sa voix à chaque instant. Veuille le bénir et le guider. Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous, ouvre-nous nos oreilles pour que nous puissions recevoir, vraiment recevoir et mettre en pratique. Amen.
Merci. Est-ce que vous m'entendez ?
Pas encore.
Pas encore.
Ah, voilà.
Ça va mieux ? Super. Effectivement, je suis un petit peu malade. Et c'est pour ça que je vous embrasse. Je n'embrasserai personne aujourd'hui pour ne pas vous contaminer. Mais le cœur y est. J'aurais bien vous embrasser, mais je le ferai une autre fois. Si tu peux éteindre, Lorenzo, s'il te plaît. Il n'a pas entendu. Merci. Ce matin, je vais vous parler d'argent. Je vois des yeux qui brillent. Je vais vous parler d'argent. Et si tu veux cliquer sur le... pour qu'on voit le transparent presse suivant. Je vais vous parler d'argent parce qu'en fait, c'est quand même un sujet important de nos vies. Et souvent, pour la plupart, on le vit de manière assez désagréable. Parce qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait de ce qu'on gagne. On voudrait gagner plus. Comment mettre du beurre dans les épinards. Ou alors pour d'autres, l'argent leur brûle les doigts. Ils se trouvent trop dépensiers, ils s'en sortent pas. C'est aussi un des principaux sujets de dispute dans les couples. Le sondage du Midi Libre 2013 montrait que 74% des couples se disputaient ou chamaillaient sur le thème de l'argent, bien avant le travail, bien avant la belle famille, bien avant les enfants. C'est aussi le rapport à l'argent de notre société qui est quand même compliqué, puisque c'est vraiment une société qui est tournée vers la consommation, et qui vise à vous créer de nouveaux désirs, de nouveaux besoins, pour vous pousser à acheter, et lorsque vous avez acheté cette chose-là, vous ne serez pas satisfait, on vous crée un nouveau désir pour que vous achetiez à nouveau. Donc c'est d'autant plus compliqué dans cette société. J'aime bien cette citation de Billy Graham, grand évangéliste, qui disait « Notre compte en banque est un document théologique. Il montre en qui et en quoi nous croyons vraiment. » Je vais y revenir. Et puis enfin, c'est un sujet important dans la Bible. Ce n'est pas du tout un sujet tabou. C'est presque un sujet très très présent. Et si vous regardez le nombre de versets qui parlent de l'argent, vous en trouverez beaucoup beaucoup plus que... peu importe, sur les dons, sur la prière, sur... l'enfer. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Nombreux versets. Mais je trouve que parfois, on n'en parle pas assez dans l'Église. Donc je me suis dit, je vais m'y coller. Et voilà pourquoi je vous fais ce message ce matin. Je vous propose deux réflexions. Une première réflexion ce matin. Une première réflexion ce matin sur l'argent, un enjeu spirituel. Et je voudrais me focaliser là-dessus et parler d'une réponse que propose l'apôtre Paul qui s'appelle le contentement. Et puis dans un mois, je vous propose une deuxième réflexion beaucoup plus pratique sur comment gérer mon argent, le don et même l'offrande dans l'église. Vous n'y voyez pas de lien avec le fait que je sois trésorier, c'est indépendant. Et dans ces deux réflexions, je ne vous parlerai pas globalement des richesses et de la pauvreté et de la nécessité du partage. Nous avions une prédication sur ce sujet-là il y a un an, c'est sur le défi Miché. Je n'en parlerai pas, c'est un sujet très important, mais j'ai choisi de ne pas parler de ça ce matin. Et puis enfin, je citerai beaucoup de versets, il y en a énormément dans la Bible, et j'en citerai beaucoup ce matin. Et pour que ce ne soit pas trop long, je les ai pour la plupart affichés ici pour qu'on gagne du temps, sinon on va terminer à 13h ou 13h30.
Et le temps, c'est là.
Allez, on continue, on enchaîne. Juste, je commence par quelques considérations générales, parce que comme on ne parle pas souvent d'argent, j'ai voulu commencer par quelques généralités. À qui appartient mon argent, mes biens? D'où vient mon argent? Juste citer quelques versets. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le psaume 24 nous dit à l'Éternel et la terre, à tout ce qu'elle contient. On pourrait citer ce verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout ce que j'ai me vient de Dieu. Mon argent est à Dieu, mon argent vient de Dieu. » Et pour être très pratique, si vous réfléchissez, vous dites « Mon argent, c'est mon salaire, il vient du fait que je travaille. » Et voilà, c'est mon temps. Si vous poussez un peu plus loin, qu'est-ce qui fait que vous travaillez et que vous pouvez travailler? C'est que vous êtes quelque part en bonne santé. Et cette santé, c'est Dieu qui vous la donne. Faites-vous des choses si vous avez un peu d'argent, beaucoup. Tout cela vient de Dieu. Et ça lui appartient. Deutéronome 8, que je n'ai pas affiché, mais dit « Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et ma puissance et la puissance de ma main m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu » car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » C'est ce que je disais, c'est bien par la force que peut donner Dieu qu'on pourra acquérir cet argent. L'argent, on a ici un banquier, mais je ne vais pas le faire intervenir. L'argent a des fonctions relativement neutres. L'argent est un outil d'échange. Ça sert à échanger des biens, ça sert à valoriser des biens. Et ça sert à stocker de la valeur. Je stocke comme une réserve. Et en soi, c'est, je dirais, relativement neutre. Il n'y a pas de portée morale. Le point suivant, c'est que la richesse n'est pas moralement mauvaise. C'est parfois une vision qu'on a qui est un peu simple. J'y reviendrai le mois prochain. Mais vous ne trouverez pas de versets à ma connaissance qui disent que la richesse est mauvaise. Par contre, Dieu met très sévèrement en garde les gens riches s'ils ne sont pas généreux. Être riche, c'est avoir une immense responsabilité de partager, de donner. Mais en soi, la richesse n'est pas mauvaise. Et puis, dernier point, c'est que la richesse ou l'argent est un bien temporel. J'ai cité ce verset de Timothée. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Job nous dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y retournerai. » Alors voilà, vous avez de nombreux versets qui mettent en valeur que c'est un bien vraiment temporaire et qui va disparaître. Mais je veux vraiment insister sur l'aspect spirituel de l'argent. Et si tu peux cliquer, je veux me centrer sur ce passage-là de Matthieu 6, du sermon sur la montagne, et en particulier sur la deuxième partie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, où il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, où vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je voudrais creuser un petit peu ce dernier verset parce que maman n'est, pour autant qu'on puisse le savoir, c'est pas une divinité de l'époque de Jésus, c'est pas une divinité comme les Baals, les Astartés, etc. C'est pas une idole de l'époque. C'est simplement le mot argent, richesse, que Dieu, enfin, que Jésus-Christ, dans ce passage-là, l'a personnifié. Il en fait plus qu'un objet, il en fait une personne. Et c'est assez rare que notre Seigneur, dans ce qu'il parlait, personnifie un objet. et je voudrais l'illustrer pour rentrer plus en détail. Il présente l'argent, Mammon, comme étant une puissance personnelle et spirituelle. Pourquoi une puissance ? En fait, il peut devenir un maître. Il va se faire servir. Deuxième point, c'est personnel, parce que Jésus décrit la relation qu'on peut avoir avec l'argent, avec Mammon, comme une relation avec une personne. Je vais haïr, je vais mépriser, je vais m'attacher. On est vraiment dans une relation quasi personnelle. Et puis dernier point, spirituel, parce qu'il est directement en concurrence avec Dieu. Et donc Jésus, dans ce passage, présente l'argent comme étant une puissance personnelle et spirituelle. Pourquoi Jésus présente ça comme ça ? Juste sur l'idolâtrie, je fais un petit parallèle, on y reviendra tout à l'heure. L'apôtre Paul, il parle d'idolâtrie, et qu'est-ce que c'est qu'une idole ? Ben c'était ça, c'était quelque part une puissance avec laquelle j'entre en relation, mais qui est spirituelle. Alors pourquoi mettre autant d'importance sur l'argent et en faire une quasiment une personne spirituelle ? Pourquoi le mettre en concurrence avec Dieu ? Et si tu veux cliquer, je vous propose quelques pistes. Alors, l'enjeu spirituel, il est parce que l'argent prétend me donner ce que seul Dieu peut vraiment me donner. Et c'est en ça qu'il est en concurrence avec Dieu. C'est là où il y a un aspect spirituel. C'est que l'argent prétend me donner l'assurance d'une vie tranquille ou la sécurité. Le psaume 52 nous dit « Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confie en ses grandes richesses. » Est-ce que l'argent est pour moi mon assurance ? Est-ce que c'est mon compte en banque qui m'assurera que je ne manquerai pas demain ? Est-ce que c'est ça qui me donne ma véritable sécurité ? Deuxième aspect que l'argent prétend me donner, alors que seul Dieu pourrait me le donner. Alors j'ai mis trois mots pour que chacun comprenne bien. J'avais ça, la reconnaissance personnelle, ma valeur, mon identité. Est-ce que mes biens, mon argent, vont me donner un sentiment de réussite, un sentiment de valeur ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien, de respectable, parce que je possède certaines choses ? Est-ce que j'ai besoin de posséder tel gadget, tel objet qu'on me propose pour être bien dans ma peau ? Est-ce que j'ai besoin de posséder pour me sentir accepté des autres ? Alors c'est un cas extrême, mais lors de la crise de 2008, de nombreux traders et banquiers, j'en profite comme il y en a dans la salle, se sont suicidés pendant la crise de 2008, parce que pour certains, c'était toute leur identité. Ils n'étaient quelque part, ils n'existaient pas sans l'argent, au point de se suicider, et ils ont été nombreux. Alors il y a peut-être d'autres points, mais je voulais juste souligner ces deux points, qui pour moi sont des besoins de tout homme. On a le besoin d'être en sécurité, on a le besoin d'avoir de la valeur et d'identité. J'y reviendrai plus tard, pour moi, seul Dieu peut nous apporter ces deux choses-là. Mais l'argent prétend combler cela à sa place. Il y a un troisième aspect spirituel que l'argent peut apporter. C'est le pouvoir de ne dépendre de personne, et notamment pas de Dieu. Proverbe 30 nous dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et à déshonorer ainsi mon Dieu. » Je peux désirer l'argent pour quelque part contrôler ma vie, avoir les moyens de la contrôler et de ne plus dépendre des autres ou de Dieu. Et on retrouve là quelque part la promesse qu'a fait le serpent ancien en Genèse lorsqu'il dit « Vous serez comme des dieux. Je ne dépendrai plus de Dieu. Je contrôlerai complètement ma vie. » Je vais les résumer pour qu'on s'interroge. Jésus présente l'argent comme une puissance personnelle, spirituelle, qui peut me donner l'assurance, la sécurité, de la valeur, une vraie identité, et puis le pouvoir de ne dépendre de personne. Je crois qu'on est tous concernés. Riches ou pauvres, on pourrait dire, mais non, c'est ça concerne les riches. Je crois que ça nous concerne tous. Karine, je te remercie. Je crois que j'ai la voix qui commence à partir. Tous concernés, riches ou pauvres. Parce qu'on peut être riche et quelque part omnubilé par les biens qu'on possède, mais qu'on peut être très pauvre, être totalement frustré et quelque part que notre esprit soit vraiment dans l'amour de l'argent pour le posséder, mais on l'a pas. L'amour de l'argent peut toucher riche comme pauvre. On est aussi tous concernés qu'on soit économe ou dépensier. Et je vais vous illustrer par l'exemple l'histoire d'un couple. Alors c'est pas une histoire réelle, hein. C'est une histoire inventée, mais à mon avis, on pourrait la retrouver dans un certain nombre de cas. Où chacun pense que l'autre ne gère pas bien l'argent. Madame pense que monsieur gère mal l'argent et inversement. Et peut-être que tous les deux sont esclaves de l'argent pour ces motifs-là qu'on vient de voir. Alors c'est un peu caricatural ce que je veux dire, excusez-moi. Madame, elle dépense beaucoup d'argent en vêtements, pour son apparence. C'est caricatural, je le reconnais. Alors son mari, il voit clairement quelque part que pour elle, son argent, ça sert à quelque part à être plus séduisante, plus belle aux yeux des autres. Ça comble un peu un besoin d'être quelqu'un qui est belle, qui a de la valeur. Et monsieur voit bien quelque part que ça, son argent, pour elle, ça sert à ça. Parce que lui, monsieur, il est économe. Et pourquoi lui, il est économe? Est-ce que c'est simplement il est économe pour être un bon père de famille? Ou est-ce qu'il est économe parce que finalement, il n'est pas en sécurité? Il a peur pour l'avenir. Et quelque part, il comble son besoin de sécurité en économisant. Et quelque part, ni l'un ni l'autre n'est libre par rapport à l'argent. Et vous? Et moi? Où est-ce que j'en suis dans ma relation à l'argent? Est-ce qu'il est réellement neutre? Ou est-ce que dans ma vie, il a cet enjeu spirituel? Est-ce qu'il sert à vraiment que je me sente bien, que j'ai de la valeur, que je sois accepté des autres? Est-ce qu'il sert à me rassurer sur l'avenir? Est-ce qu'il me sert à ce que je puisse contrôler complètement ma vie sans Dieu? Si tu veux cliquer. La Bible nous parle de cupidité. La cupidité, c'est ce désir d'argent pour les bénéfices qu'on vient de voir avant. Le désir cet argent pour être en sécurité ou autre. Je ne vais même pas lire les passages, vous en avez des dizaines et des dizaines, où Dieu nous met en garde contre la cupidité, le désir de posséder, le désir de l'argent. C'est dans la loi, c'est notre Seigneur en parle nombreuses fois. On va juste lire ce que cite l'apôtre Paul, deux fois en Colossiens et en Éphésiens. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. En cédant à ce désir, certains se sont égarés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. J'ai remarqué qu'on peut juste aller jusqu'au point à s'égarer de la foi, ce qui est quand même assez fort comme expression. Une petite parenthèse, notez qu'il n'est pas dit que c'est l'argent qui pose problème. C'est l'amour de l'argent. Ce qui touche mon cœur. Et puis en 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul, il met en garde les Corinthiens dans un passage assez, que certains considèrent comme sévère, mais en disant, en tout cas, si vous avez des frères dans l'église qui ont certains comportements, n'ayez pas de relation avec eux. Il dit, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est... Alors, ce frère, vous avez... Là, c'est dit impudique, cupide, ravisseur, idolâtre. est-ce que dans l'église je me dis que si j'ai quelqu'un qui est idolâtre, c'est évident pour moi que je vais m'écarter. Mais quelqu'un qui est simplement cupide, qui désire de l'argent, est-ce que j'y attache beaucoup d'importance? Que faire? Si tu veux cliquer, je vous propose 4 étapes. La première, c'est d'identifier cet enjeu spirituel qu'a l'argent dans nos cœurs. C'est ce que je viens de vous présenter. Ces besoins prétendument comblés par l'argent, qui sont quelque part les racines de la cupidité. Le deuxième point, c'est oser s'interroger. Parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas, et je vous propose ce matin vraiment de se poser la question. Ayons le courage avec l'Esprit Saint de s'interroger sur le lien qu'a l'argent dans nos cœurs, l'emprise qu'il peut avoir, et peut-être de demander pardon, peut-être de confesser un esprit cupide. Le troisième point, c'est de comprendre que cette société, elle est vraiment fabricante de frustration. Et que ça tend à vous emprisonner, à m'emprisonner. Et je ne sais pas si on a des gens ici qui font du marketing. Peut-être si quelqu'un avec quelqu'un du marketing serait intéressant. J'ai parfois assisté à des formations très très intéressantes sur comment créer le besoin chez le consommateur que vous êtes. Besoin qui n'existe pas au départ. Et comment on va vous conditionner à vous faire croire que sans cet objet, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre. Vous en avez besoin. 5 ans plus tôt, vous n'avez pas ce besoin. Maintenant, vous l'avez. Et donc, vous allez consommer. Et donc, après, on vous proposera autre chose. C'est pour ça que certaines personnes dans le marketing sont très, très bien payées. Parce qu'ils sont capables de créer des besoins en vous. Et dernier point, c'est apprendre le contentement. Apprendre le contentement, et c'est ce que je veux développer maintenant. À travers 2 versets, l'apôtre Paul, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, est-il évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Je ne sais pas si vous en êtes là. Moi, j'en suis pas là. Si quelqu'un ici peut dire que il a la nourriture et les vêtements et que ça lui suffit, je l'invite à venir ici prendre ma place. Il est plus compétent que moi pour parler ce matin. Moi, j'en suis pas là. Philippiens 4 nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » 3 commentaires. Premier, ça s'apprend. On le voit au début de ce verset. J'ai appris à être content. Ça tombe bien, moi j'ai besoin d'apprendre ça. Peut-être que je ne suis pas le seul. Le contentement, c'est le mot grec, c'est quelque part qui se suffit à lui-même, qui est satisfait. Être satisfait en toutes circonstances, dans l'abondance comme dans la disette. Lorsque je gagne bien ma vie, lorsque je suis au chômage. Être dans le contentement. Et où est-ce que je vais trouver cette source de contentement? On la trouve à la fin du verset, du deuxième verset de Philippiens 4. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en Dieu que je vais trouver la source du contentement. Et je vous propose de revenir aux 2 sujets sur lesquels j'ai partagé tout à l'heure, quelque part, ce que l'argent prétendait me donner à la place de Dieu. Je vous ai parlé d'assurance et de sécurité. Hébreux 13 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Vous voyez, c'est encore un message qui revient assez, de manière permanente. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que je peux dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Est-ce que vous vous contentez? Est-ce que je me contente de ce que j'ai? Et que mon besoin de sécurité pour l'avenir, il est en Dieu. Mon Dieu me dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je n'ai pas besoin de stocker l'argent au cas où. Mon Dieu est là. Je ne vais pas développer les deux petits tirets que j'ai mis. Mais vous connaissez ces passages où je vous invite à les relire. J'ai un Père qui pourvoit mes besoins. Et notre Seigneur le développe pleinement en Matthieu 6. J'ai un Père qui pourvoit mes besoins. Matthieu 7, 10 nous parle aussi de ce Père qui ne va pas donner à ses enfants un serpent alors qu'il leur demande du pain. Non, une pierre. Oui, un serpent, c'est bizarre. Ah oui, non, c'est... Enfin, il oppose... Peu importe. Il oppose pain et pierre. Et puis cette expression que notre Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit. » Est-ce que... Ouais, vas-y, ben, on va continuer. Deuxième bénéfice, c'était la valeur que l'argent pouvait me donner, la reconnaissance, une identité. Voilà mon identité. Je suis un enfant de Dieu, bien-aimé du Père, citoyen des cieux. Dieu m'a adopté, a fait de moi son enfant. Mon identité, elle est merveilleuse. Et j'ai aucun bien. Rien de ce que je peux acheter, aucun compte en banque ne me donnera plus de valeur. Ce que je suis fondamentalement est déjà merveilleux en soi. J'ai juste cité, on va pas les lire, mais je vous invite à revenir si ça peut aider certains à revenir. Qu'est-ce que la parole nous dit de qui je suis, quelle est ma valeur, mon identité en Christ ? En conclusion, si tu veux passer, je reviens sur ces quatre étapes que je vous ai proposées. Identifier cet enjeu spirituel que l'argent peut avoir dans nos cœurs, tous ces besoins qu'il prétend combler, mais c'est un leurre, et qui fait qu'on va développer cet amour de l'argent. Je vous propose de faire le choix de vous interroger avec l'aide de Dieu pour qu'il aille chercher au très fond de votre cœur ce qu'il peut y avoir comme lien. Voilà, comprendre cette société de frustration, de consommation, et puis apprendre, faire le choix d'apprendre le contentement en Dieu. Et ça peut être une prière que vous pouvez lui faire. Apprends-moi le contentement en toi. Et je vais prier. Père, l'argent dans nos vies est un sujet parfois compliqué. Et on désire t'ouvrir nos cœurs pour que tu nous montres que par la relation que nous avons avec l'argent, qu'est-ce que ça vient combler chez nous, chez moi, dans mon cœur. Je t'invite à vraiment faire ce travail de montrer ce qu'il y a au fond de mon cœur. Je te prie de m'apprendre le contentement. Parce que je crois que l'argent ne me donnera pas plus de valeur, pas plus de sécurité. Tu es ma sécurité. Par toi, j'ai toute mon identité. Quelle plus grande valeur que celui d'être l'enfant de Dieu. Apprends-moi, Seigneur, le contentement pratique
que chaque jour je le découvre un peu plus. Amen.
Et si tu veux cliquer, si vous voulez aller plus loin et discuter avec moi,
comme je suis pas là, comme je suis contagieux, je ne discute pas avec vous.
Vous pourrez m'écrire par mail et on pourra discuter par mail. Vous m'écrivez, j'ai mis mon adresse mail, ou on discutera la semaine prochaine.
Il n'y a pas les W.
Il n'y a pas les W, vous avez raison. Je suis fatigué, je suis malade, c'est pour ça que j'ai pas de W. C'est directement mon adresse avec sfr.fr. Si vous voulez aller plus loin et creuser un peu ça, il y a pour moi un excellent article qu'a écrit Jacques Ellul qui s'appelle « La réalité de l'argent » et qu'on trouve sur le site kf.net qui va bien plus loin que ce que j'ai pu vous présenter et qui creuse cela vraiment de manière très intéressante. Et puis je vous donne rendez-vous dans un mois pour être une version, enfin dans une autre direction pour dire comment je vais gérer mon argent, comment je vais donner, parce que donner c'est un privilège, c'est pas une charge. Et puis je traiterai courtement de l'offrande dans l'église, parce que comme je suis trésorier, je ne veux pas en dire trop. Certains y verraient un lien, il n'y a pas de lien. Voilà. Je vais te laisser la place à nouveau.
Comme titre, un des versets que Stéphane a donné, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Il reprend en fait, il analyse tous les passages de la Bible qui parlent d'argent. Et effectivement, Jésus parle plus souvent d'argent que de salut. C'est un peu étonnant, hein. Merci en tout cas Stéphane, j'ai trouvé que c'était très éclairant. Et on se réjouit de la suite. Je le trouve aussi important d'aborder cette question de l'argent quand on se prépare à Noël. Parce que vous le savez, la période de Noël est une période où on sent bien la place de l'argent, des cadeaux qu'on donne ou qu'on reçoit. Et